France Culture.
Qu'est-ce qu'il faut dire en termes d'actualité ?
France
Alors,
Culture.
Ils nous ont oubliés et j'ai une création au Festival d'automne.
Mais vous n'arrêtez jamais les artistes.
Le Book Club.
D'ailleurs, est-ce que je vous vois mettre votre main devant votre bouche ? J'ai un souvenir qui m'arrive tout de suite, tout droit d'une émission.
Où j'avais mis ma main.
Ouais. C'est marrant, ça me revient là comme ça tout de suite. Je me rappelle très bien du studio. Et tout, je me rappelle parfaitement.
C'était pas avec les musiciens ?
Dans la bibliothèque de Séverine Chavrier.
Mais j'ai pas bien compris la question, c'était quoi ? C'était les livres importants dans notre vie ?
Très bien, on va parler de la question, ça me paraît bien.
Marie Richeux.
La musique, le théâtre, la philosophie et les lettres. Voilà, si l'on devait décrire votre formation, ce qu'il faudrait pouvoir dire ensemble. Cette manière de lire, penser, jouer les textes au milieu des autres arts. Vos mises en scène parlent de votre rapport à la littérature, Séverine Chavrier. Vous montiez au Festival d'Avignon 2024 votre lecture du roman Absalon, Absalon de William Faulkner, avant une tournée et une reprise ensuite et entre autres au Théâtre de l'Odéon à Paris. Faulkner que vous aviez déjà fréquenté avec votre mise en scène, inspirée des palmiers sauvages quelques années auparavant. Il faut évidemment citer aussi vos mises en scène d'après les romans de Thomas Bernhard, Le déjeuner de Wittgenstein et La plâtrière. À chaque fois, on vous sent, vous, vos interprètes, vos scénographes, comme au cœur de l'espace du texte, avec toutes vos questions et l'épaisseur des lectures passées. C'est pourquoi on avait tellement envie de vous proposer cet exercice du déballage de bibliothèque. Merci beaucoup Séverine Chavrier d'avoir accepté l'invitation du Book Club.
Merci pour votre invitation.
Ça vous parle l'idée que vos mises en scène nous parlent à nous de votre rapport, entre autres choses, mais avec la littérature ?
Oui, je pense en tout cas que quand je m'autorise à travailler à partir d'un texte, c'est vrai que j'ai l'ambition que le passage au plateau soit un saut. Et un saut sensuel, disons, avec tous les éléments à disposition sur un plateau de théâtre qui peuvent faire poésie, en tout cas qui peuvent émotion et sensation. Et pour moi, c'est des sortes d'adaptations. On me demande souvent combien il y a de textes dedans. Je me souviens surtout sur justement Ritter de Nevos, le déjeuner chez Wittgenstein. Stéphane Brunswick, qui à l'Odéon m'avait demandé juste avant de jouer, il y a combien de pourcentage de textes ? mais en fait, j'avais dit 80, parce que les gens pensent toujours qu'il y a moins qu'il n'y a.
Ouais.
Mais c'est surtout l'idée que ça serait une sorte de fidélité dans la non-littéralité, en fait, et que l'exercice de déplier un poème ou de déplier un texte, c'est vraiment pas celui que je fais au plateau, c'est plutôt d'essayer de lui rendre des forces ou des énergies, en tout cas une interprétation de ma part, de ma lecture.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que moi, j'ai plutôt l'impression que vous ne mettez pas tellement en scène, bon, avec toute la nuance de ce propos, mais que vous ne mettez pas tellement en scène des textes, mais la lecture des textes. C'est vraiment une sorte d'espace qu'on a l'impression de vous voir penser, alors vous et vos équipes et vos interprètes, Séverine Chavrier, mais notamment, je me rappelle vraiment du début de Absalon, Absalon, où j'ai l'impression que c'est l'espace du texte qui est ouvert devant moi et que je peux rentrer dans la lettre et être bousculée par le texte de Faulkner ou votre lecture du texte de Faulkner. Est-ce que vous grandissez dans une maison où il y a des livres ?
Oui, il y a des livres, mais mes parents sont pas ce qu'on dirait littéraires. Ils sont plutôt scientifiques, disons médecins en tout cas. Mais par contre, bourgeoisie de province.
Donc ça lit ? Vous voyez des gens lire ?
Oui. Mais je dirais que la musique est plus présente que la littérature, peut-être.
En tout cas,
l'important, c'est d'avoir des résultats en mathématiques.
Ça veut dire que ça sonne comme un chemin de traverse que de considérer que d'un seul coup, l'important, ça va être d'être dans les textes ?
Ah oui, j'ai changé d'orientation le premier jour de la rentrée en classe préparatoire. J'étais donc inscrite en maths sup et j'ai demandé à changer.
Le premier jour ?
Toute seule, je n'ai pas demandé l'autorisation à ma famille.
Ah oui, donc c'est une sacrée bifurcation.
Immédiate en tout cas.
Ouais. Mais parce que c'était plutôt du rejet ou plutôt du désir ? Parce que vous vous disiez vraiment là, ça ne va pas être pour moi, Mathsup, Mathspé ? Ou c'était plutôt mon vrai endroit, c'est les lettres, j'ai envie d'être proche des textes ?
Je n'ai jamais pensé que j'étais très littéraire. Par contre, c'est vrai que j'avais un vrai désir. En tout cas, c'était toucher plus proche à l'art. Parce que j'avais déjà la musique fort.
Ouais.
Mais si, en fait, la mathématique le touche. D'ailleurs, après, j'ai refait une sorte de crise mathématique. J'ai voulu refaire des mathématiques. Parce que je voulais faire de la philosophie, de l'épistémologie, en fait. Et que finalement, la grande mathématique, c'est le poème aussi. Mais il faut un autre niveau de travail, là.
Pour y accéder.
Oui.
Ça commence comment, votre vie de lectrice? À l'enfance, à l'adolescence, ça ressemble à quoi? Vos goûts? Votre manière de lire?
En tout cas, il y a une grande peur, en tout cas, une non-passion pour le narratif. C'est-à-dire que j'ai très peu lu de romans.
D'emblée?
Oui. Et je lisais plutôt de la poésie ou des essais, en tout cas, à partir du moment où j'ai voulu lire, ou beaucoup de théâtre aussi. Mais le roman a été quelque chose vraiment de très lointain pour moi pendant très longtemps.
Qu'est-ce qui vous rebutait?
La narration et le côté très... l'histoire, la question de... Et donc j'ai tardé beaucoup à lire ça.
Vous ne vouliez pas qu'on vous raconte des histoires? Ça vous intéressait peu?
Très peu.
Ouais.
J'étais touchée par des fragments, par des émotions, par des... Joyce, c'était possible. Ou
mais
Proust,
quel âge
ou... Non, mais là, je parle de 17 ans. Enfin, à partir du moment où j'ai commencé à vraiment lire.
Mm.
Et avant, beaucoup de théâtre, ouais, il me semble.
Joyce a 17 ans. Pourquoi, comment? Qu'est-ce que ça
vous fait? Pour ses essais formels, justement, et pour ce retournement, j'avais l'impression que c'était... comme une passion des mots tellement grande que tout était littérature, en fait. Une inscription sur un panneau publicitaire, enfin, que tout était langage.
Et vous dites que vous mettez du temps à vous diriger vers la forme romanesque. Ça arrive avec quoi?
Bernard, par exemple. Mais Bernard, j'y suis arrivée très jeune à cause de la musique. Je cherchais vraiment... des auteurs qui pouvaient parler de la musique comme avec familiarité, comme une chose qui existait dans leur vie, en fait, que la passion de la musique existait dans leur vie.
Parce que c'était le cas dans la vôtre?
Oui, vraiment. Mon grand amour, ça a toujours été la musique.
Encore aujourd'hui, vous diriez? J'ai essayé de décrire, c'est en effet pas tant comme une succession des disciplines qui vous auraient formé, Séverine Chavrier, mais plus comme une forme d'empilement. Mais vous la mettriez au-dessus, la musique?
Oui, c'est par la musique que j'ai pu accéder aux autres arts, je dirais. Et oui, j'ai toujours eu un grand amour pour la musique difficile, douloureux, souvent très douloureux. C'est un langage qui me semble le plus proche de moi.
Mm.
Même si je n'arrive pas à le manipuler comme je voudrais.
C'est-à-dire?
Je serais incapable de composer de la musique, par exemple. Mais par contre, ça reste un langage, un discours en tout cas, qui me semble très proche.
Puisqu'on commence cette émission en essayant de cerner par un portrait de lectrice qui vous êtes sur ce chemin-là, vous diriez que préciser le fait que la musique, c'est le langage qui vous est le plus proche, c'est le langage qui vous est le plus facile à appréhender, ça fait quoi de vous comme lectrice? Qu'est-ce que ça donne comme trait?
En tout cas, c'est la musique, c'est je la pense aussi comme une énergie, en fait.
Mm.
Et notamment avec les actrices, c'est une énergie pour moi que je donne, ou une couleur, ou une énergie surtout. Donc dans la lecture, j'ai cherché sans doute ces changements de tempi, ces accélérations, ces formes irruptives aussi.
Mmh.
Et puis la question du fragment, je sais pas si elle vient de là, de thème et variation aussi. Beaucoup la question de la variation, du retour, l'éternel retour du même et la sélection du différent, comme disait Deleuze de Nietzsche, puisqu'on va peut-être en parler plus tard. Peut-être ça, en tout cas, au théâtre, des références aussi formelles.
Donc vous lisez en musicienne, ou vous lisez en ayant été pétrie comme musicienne?
Je pense, en tout cas, je ne me suis jamais vraiment considérée comme une vraie littéraire.
Ça change
à mes
quoi
collègues,
de dire ça? Non, mais c'est intéressant. Qu'est-ce que ça change de dire je me suis jamais considérée comme une littéraire alors qu'on vous sait précisément dans le verbe, proche du verbe, attaché au texte? Qu'est-ce que vous dites quand vous dites je suis pas littéraire?
J'ai pas lu dans mon adolescence les romans initiatiques, etc. Et je n'écris pas. Enfin, j'écris très peu. Moi, ma porte d'entrée, c'est plutôt la philosophie que la littérature. J'écris très peu, Et dans mes pièces, j'écris avec les actrices et j'écris des choses, mais des petites choses. Et souvent, justement, je ramène en fait des auteurs cryptés dans mes pièces parfois.
C'est-à-dire, vous glissez.
Voilà, je glisse quelques phrases qu'on ne sait pas forcément.
Est-ce que vous pensez que de n'être pas littéraire, ça vous donne de la liberté pour arpenter les chemins des textes comme vous le voulez ?
Peut-être, peut-être. En tout cas, je refuse d'être scolaire et d'être subordonnée au poème et à la lettre. J'essaye d'avoir une... En tout cas, de m'engager dans une lecture qui est dramaturgique et qui m'engage. Qui engage
et où ça
mon
joue,
corps,
quoi.
Qui engage aussi toute l'équipe, en fait, que ce soit la scénographe, les actrices, dans ce qui reste de leur lecture, qui est intime.
Vous leur faites lire à chaque fois ? Enfin, ils lisent ou elles lisent à chaque fois ?
Oui, mais on n'est pas ensemble.
Ouais.
On ne partage pas cette lecture et chacun est à un niveau de lecture qui lui appartient. On ne partage pas un temps de lecture à la table.
Chacun dans son coin arrive chargé de ça après.
Voilà. Et qu'est-ce qui se dépose chez lui et qu'est-ce que la scène, qu'est-ce que les éléments, qu'est-ce que la musique, qu'est-ce que les médias vont révéler avec lui ou avec elle de cette lecture. C'est ça qui me passionne.
Vous êtes surprise parfois ou souvent des lectures qui sont faites par les personnes avec qui vous travaillez sur des textes comme, je sais pas, aussi complexes et denses que Absalon, Absalon de Faulkner ou on va y venir les textes de Bernard sur lesquels vous avez travaillé.
Ah oui, toujours.
Il y a des aspects qui vous apparaissent.
Très très souvent, on est surpris et surtout ce qui était passionnant notamment dans Ils nous ont oubliés, donc à partir de la plâtrière de Thomas Bernhard, c'est de, dans le travail, découvrir des choses qu'on n'avait pas, que j'avais pas vu ou pensé, ouais, et sentir qu'on est en train de fabriquer un objet qui va dans un endroit qu'on n'avait pas senti, qu'on n'avait pas en tout cas imaginé.
Ça veut dire que le plateau de théâtre, c'est un bon outil pour lire ?
Ouais, ça j'en suis sûre, c'est un bon outil pour beaucoup de choses.
On va parler des cinq auteurs et autrices que vous avez choisi de discuter avec nous aujourd'hui, et aussi des auteurs de prédilection qui vous accompagnent dans votre vie théâtrale, Séverine Chavrier. Mais est-ce qu'il y a eu récemment des découvertes ou des bifurcations comme ça dans votre vie de lectrice que vous voudriez mentionner, qui figurent pas là dans vos choix, mais qui sont importants pour vous ?
Ben, il y a eu la découverte des auteurs jeunesse avec ma jeune fille. Et c'est vrai que j'ai une passion pour...
Vous voulez en citer quelques-uns ?
Ce monde. Non, je suis pas érudit, mais c'est vrai que j'ai été passionnée par voir l'humour qui est recherché, la pureté, et puis le courage, quoi, d'aller s'adresser comme ça à ses enfants si jeunes. Et le monde que ça représente, tourner les pages du livre, et le monde pictural et poétique que ça représente. Voilà, ça m'impressionne beaucoup.
Bien sûr. Ouais. C'est marrant parce que vous disiez, avec mon équipe, on ne lit pas ensemble. Or, avec un enfant, c'est quelque chose qu'on fait et qui est une expérience incroyable. En effet, on tourne les pages ensemble, en tout cas pendant tout un premier temps.
Et l'importance qu'ont certains livres, c'est vrai que je ne le mesurais pas avant. Et je me dis, est-ce que ces auteuristes savent à quel point ces livres participent en fait d'un éveil sensoriel immense ? L'humour m'a beaucoup impressionnée.
Vous regardez aucun souvenir de vos lectures de petite enfance ?
Non,
ouais.
Aucun.
On va aller vers votre sélection de textes, Séverine Chavrier, juste après ça.
Send me pics, I wanna see it done. she's on to me. Maybe we'll mix, I hope you like. Are you the kind that likes to read between the lines? Cause I got a pardon for loving you. I got a pardon for time. I got a pardon for loving you, loving you. I don't know you're not mine.
Le Book Club, dans la bibliothèque de Séverine Chavrier. Marie Richeux.
On va passer à ce deuxième temps de votre bibliothèque, Séverine Chavrier, comme à tous nos invités. On a demandé 5 livres, 5 extraits de textes. On fait une demande assez large, intentionnellement assez vague, et chacun de nos invités, chacune de nos invités s'empare de l'exercice comme il ou elle le souhaite. Comment avez-vous décidé de vous emparer de cet exercice, Séverine Chavrier ?
C'était pas simple. Déjà, je vous ai rendu plusieurs, beaucoup plus de noms.
Ça, c'est un classique.
J'ai essayé de penser à des choses qui avaient été un peu fondatrices, qui étaient aussi un peu, qui ont duré dans le temps, disons, qui ont été aussi utilisées un peu dans mes spectacles, et puis des choses plus récentes, où, pour pas rester dans une cosmogonie très années 90.
Hein. Qui est une grande période de lecture pour vous, vous devez être fondatrice dans ce sens-là.
Voilà, ouais, mes 20 ans, quoi. Et puis, voilà, avant les gender studies, en fait. Moi, j'ai étudié avant. Donc, c'est vrai que quand j'ai rencontré Donna Haraway, c'était quand même un choc. Et puis, cette vitesse de pensée, cette intelligence, voilà, des choses un peu plus récentes qui m'ont aussi bousculée, comme vous disiez, dans... sortir un peu de la philosophie analytique, voilà.
Vous parlez des années 90 et des textes fondateurs qui ont été comme ça aussi formateurs et se retrouvent, si j'ai bien compris, parfois cachés dans vos spectacles. J'ai oublié de vous demander à quoi ressemblait votre bibliothèque. Vous les avez sortis de votre bibliothèque vraiment ? Vous avez vraiment fait ce geste-là ?
Alors, c'est compliqué parce que j'ai...
plusieurs endroits.
Des questions logistiques, voilà. Donc, ma bibliothèque est plutôt à Paris. Et je vis actuellement à Genève, et donc j'ai pas transporté mes livres. Donc c'est pas toujours simple de les avoir sous la main. Mais il se trouve que j'ai ouvert un carton, et il y avait un peu tous les livres que j'avais réunis autour de la première fois que je travaillais sur Bernhardt. Donc il y avait pas mal de choses dedans.
Comme une sorte de bibliothèque de spectacle, un peu.
Oui, je fais des recherches, enfin disons que dramaturgiquement, ouais, je fais une sorte de valise. Voilà, j'aime bien préparer beaucoup...
Et dans une maison idéale, Séverine Chavrier, où éventuellement les choses seraient réunies, et ce serait organisé comme ça, la bibliothèque, par zone de recherche, par moment de travail. Il pourrait y avoir dans votre bibliothèque un espace de quand j'ai travaillé pour la première fois autour de Thomas Bernhardt. Ça ferait sens pour vous comme organisation des livres.
Oui. Et surtout qu'il y en ait beaucoup, mais après, il ne faut pas que ça ressemble à un cabinet de psychanalyse, parce que... c'est très étrange, le rapport aux livres dans les cabinets de psychanalyse.
Ça dépend, Séverine Chavrier, on a connu cabinet de psychanalyse vide. Ne généralisons pas.
Donc,
vous voulez un endroit avec plein de livres, mais pas qui ressemble à un cabinet de psychanalyste. Ouais. Ok. Vous parlez de Thomas Bernhardt, on va écouter une archive. Elle est extraite d'une émission que signait Christine Le Cerf, que à partir d'archives de la voix de Thomas Bernhardt. C'était diffusé en 2009 sur France Culture.
Das ist eigentlich alle Augenblick hellauf zum Lachen. Aber ich weiß nicht, haben die Leute keinen Humor oder was? Ich weiß es nicht.
En fait, à chaque instant, il y a de quoi éclater de rire. Je sais pas, les gens n'ont aucun humour ou quoi?
Mich hat's immer zum Lachen gebracht. Bringt mich auch heute noch.
Moi, ça m'a toujours fait rire.
Wenn man fad ist oder es ist irgendwie
eine tragische
Periode, schlage ich ein eigenes Buch von mir aus, bringt mich am ehesten zum Lachen.
Quand j'ai plus de goût à rien ou que je traverse une période tragique, j'ouvre un de mes livres.
Dass das so ist.
Et c'est encore ce qui me fait le plus rire.
Mais ça sagt nicht, dass ich auch ernste Sätze geschrieben habe, nicht? Zwischendurch,
damit. Mais ça ne veut pas dire, bien sûr, que j'ai jamais écrit des phrases sérieuses de temps à autre pour faire tenir les phrases comiques. C'est le ciment. Le sérieux ciment le programme comique. D'un autre côté, on peut aussi considérer que ce que j'ai entamé quand j'ai commencé à écrire il y a 20 ans est un programme comique philosophique. Évidemment, une philosophie aride, uniquement sérieuse, ne fait pas rire, et c'est d'ailleurs terriblement insipide. Mais Schopenhauer me fait rire.
Beim Schopenhauer kann ich auch lachen, ne? Je verbissener er ist, desto mehr ist er zum Lachen. Nur nehmen die Leute das alles tragisch ernst.
Et plus il est hargneux, plus il fait rire. Simplement, les gens prennent tout au sérieux, au tragique. Et comment peut-on prendre au sérieux quelqu'un qui est marié avec un caniche? C'est un philosophe comique, non?
Das sind die großen Spaßmacher in der Geschichte, ne? Schopenhauer, Kant.
Ce sont les grands clowns de l'histoire, Schopenhauer, Kant, mais aussi les plus sérieux du monde, en fait. Pascal aussi en fait partie, de sa façon, catholique. Ce sont les grands philosophes comiques, non?
On entend la voix de Thomas Bernard, Séverine Chavrier, pour entamer ce parcours dans votre sélection de textes. Les quelques phrases sérieuses que j'ai écrites cimentent mon programme comique. Bon, Thomas Bernard fait partie de votre sélection, j'allais dire, ça n'est pas une surprise. Pourquoi lui? Pourquoi lui dans votre bibliothèque? Pourquoi lui à ce point dans votre théâtre? Et peut-être pourquoi lui dans votre cœur de lectrice?
Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que je cherchais vraiment un auteur qui puisse parler de la musique. C'est vrai que c'est la présence de la musique chez Bernard qui m'a d'abord conquise. Et puis j'ai lu en premier, je pense, Le Naufragé, qui est un livre particulier quand même, vraiment sur la question de l'interprète, sur trois pianistes, surtout un pianiste qui finit par se suicider après avoir entendu Glenn Gould jouer, enfin en tout cas qui arrête de jouer au moment où il entend Glenn Gould en se disant voilà, lui c'est le génie et moi je suis rien. Et donc il y a ce premier mouvement de rapport à l'art, à l'absolu que j'aime beaucoup chez Bernard, c'est-à-dire une volonté d'absolu, d'exigence qui peut se retourner en stérilité et en catastrophe en fait personnelle. Et il tient l'artiste et l'interprète, il parle très bien de l'interprète, qui est une chose très particulière. C'est pas encore le créateur, mais l'interprète comme infirme, comme cette question, en tout cas ce mouvement toujours entre le haut et le bas, personnel aussi, qui est très beau, cette tentation du suicide aussi, qui a partout chez Bernard, beaucoup, beaucoup dans les premiers textes aussi.
Rapport à l'absolu d'ailleurs et à la manière dont ça peut se retourner sur celui ou celle qui y tend en matière d'art est présent dans le travail que vous faites autour de La Plâtrière, c'est-à-dire que c'est un auteur qui tend vers un texte qu'il n'arrive jamais à écrire, tout l'empêche de travailler, tout l'empêche de penser, c'est un cauchemar, et pourtant sa tension vers un absolu d'écriture est...
Il a recensé toutes les occurrences qui pouvaient empêcher l'artiste de jeter son texte sur le papier. Donc il met en scène en fait quelqu'un qui aurait tout dans la tête et à qui il manquerait le courage de le faire. Et donc il recense toutes les excuses, c'est pas le bon endroit, c'est sa femme qui le dérange, c'est tout le monde qui le dérange, peut-être que... etc. etc. Et c'est très comique aussi, comme il l'a dit, et tragique. Et cette tragicomédie aussi qui me touche, je pense, et puis ce... vraiment cette authenticité dans la description de ces mouvements intérieurs de l'artiste et de toucher l'absolu du beau. D'ailleurs, il met la musique au-dessus par son abstraction aussi, et la trivialité de la vie domestique aussi. Et cette chose totalement anti-théâtrale, quoi, qui est observer un être pendant 4 heures qui n'arrive pas à écrire, et comment on peut travailler la farce de ça. Je crois vraiment que son théâtre est encore plus farcesque que ses romans, et qu'il y a vraiment aussi cette injonction pour qui le monde de comprendre son humour et d'essayer de le retranscrire aujourd'hui, enfin de transmettre en tout cas quelque chose d'un humour contre soi-même aussi, et puis Et puis j'aime aussi cette façon d'échanger, de se parler, cette cruauté en fait de la langue entre les êtres, et à la fois cet immobilisme, enfin cet éternel retour du même, c'est-à-dire que la crise chez Bernard, la crise familiale ne produit rien en fait, elle n'est que quotidienne, et cette espèce de dans la plâtrière, ce couple comme ça qui se tient.
Qui se tient et se tue en même temps.
Par une sorte de haine, mais aussi d'amour, je sais pas. Et ça, c'est, je suis très familière de ce genre de relation.
Vous avez dit que vous avez commencé par lire Bernard avec Le Naufragé. C'est à quel moment de votre parcours ?
Ben ça, je pense que j'avais autour de 17 ans. Voilà. Et que c'est vrai que cette langue aussi, cette phrase interminable, et ce ressassement, cette non-efficacité dans la narration m'a beaucoup plu, m'a beaucoup touchée. Aujourd'hui, c'est plus dur de relire comme ça Bernard, mais le travail que j'ai fait donc deux fois, porté deux fois à la scène, c'est aussi passionnant parce qu'on va chercher d'autres endroits la deuxième fois qu'on avait peut-être pas touché. Je m'étais dit j'ai déjà tout dit ce que je devais dire sur Bernard, pourquoi je retourne à un roman, à un de ses premiers romans. Et c'est vrai que on a trouvé des choses qui m'ont vraiment passionnée, notamment aussi sur la question justement un peu misogyne de Bernard, qui laisserait comme ça ces soliloques au masculin, que les femmes seraient mutiques. Et ben finalement, dans le travail, on peut aussi faire grandir la force en fait de la femme mutique et malade, dont on ne connaît pas la maladie, qui peut aussi jouer de chantage. Et finalement, c'est sans arrêt une mise en scène de soi pour une mise à l'épreuve de l'autre. Donc qui et cet homme qui finalement est complètement dans le domestique, c'est lui qui doit gérer. Prend finalement la figure du féminin et la femme à travers la nature, ces histoires d'oiseaux qu'on a sur le spectacle. On est allé chercher aussi Vinciane Després, justement, Donna Haraway, à qui on a emprunté une petite phrase qui est importante dans le spectacle, puisque il y a deux villageois qui discutent, et il y en a un qui dit mais qu'est-ce qu'elle dirait la nature si elle pouvait parler, et l'autre répond elle dirait faites des parents, pas des enfants. Okay, dans son...
Vous avez parlé de ce texte, Le Naufragé, que vous découvrez, premier texte que vous découvrez de Thomas Bernard. On écoute un extrait dans votre voix.
L'interprète au piano, il ne disait jamais pianiste, est celui qui veut être piano. Et je me dis d'ailleurs chaque jour au réveil que je veux être le Steinway. Non point l'homme qui joue sur le Steinway, c'est le Steinway lui-même que je veux être. Parfois, nous sommes proches de cet idéal, dit-il, très proches, spécialement quand nous croyons que nous sommes d'ores et déjà fous, quasiment sur le chemin de cette démence que nous craignons plus que tout au monde. Il haïssait l'idée de n'être qu'un médiateur de musique entre Bach et le Steinway, et de se retrouver un jour broyé entre Bach et le Steinway. Un jour, c'est lui qui parle, je serai broyé entre Bach d'une part et le Steinway d'autre part, dit-il, pensais-je. À longueur de vie, j'ai peur d'être broyé entre Bach et Steinway, et je dois faire un effort démesuré pour échapper à cette horreur, dit-il. L'idéal serait que je sois Steinway. Je pourrais me passer de Glenn Gould, dit-il, en étant Steinway. Je pourrais rendre Glenn Gould superflu. Mais il n'y a pas, à ce jour, un seul interprète au piano qui soit parvenu à se rendre superflu en étant Steinway. C'est Glenn qui parle. Me réveiller un jour et être Steinway, et Glenn en un seul, dit-il, pensais-je. Glenn Steinway, Steinway Glenn, uniquement pour Bach. Probablement, Wertheimer haïssait-il Glenn. Probablement me haïssait-il moi aussi, pensais-je. Cette pensée reposait sur des milliers, voire sur des dizaines de milliers de remarques se rapportant à Wertheimer lui-même, mais également à Glenn et à moi. Et je n'étais moi-même pas exempt de haine envers Glenn, pensais-je. Je haïssais Glenn à tout moment, en même temps que je l'aimais, avec la plus extrême conséquence. Rien de plus effrayant, en effet, que de rencontrer un homme si grand que sa grandeur nous annihile, et de devoir assister à ce processus, et de devoir le subir, et aussi, finalement et au bout du compte, de devoir l'accepter, alors même que nous ne croyons pas véritablement à un tel processus, toujours pas, jusqu'à ce qu'il se soit imposé à nous comme un fait incontournable, pensais-je, au moment où il est trop tard pour nous. Nous avions été nécessaires, Wertheimer et moi, à l'évolution de Glenn. Comme de tout le reste, Glenn abusait de nous, pensais-je, dans la salle à manger. L'impudence dont Glenn faisait preuve en toute chose, la terrible perplexité de Wertheimer à cet égard, mes réticences envers ceci et cela, pensais-je. Brusquement, Glenn fut Glenn Gould. Tout le monde, y compris Wertheimer et moi, avait raté le moment où, comme je dois le dire, il était effectivement devenu Glenn Gould.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce texte-là, Séverine Chavrier ?
On y lit bien l'ambivalence de Bernard qui joue comme ça avec des références. Au-dessus de tout, il joue comme ça avec une sorte de crépuscule des idoles, de philosophie à coups de marteau qu'il y a dans Les Célèbres, par exemple, sa pièce. Et cette question de l'admiration qui est aussi une question... Dans le spectacle Aria da Capo, les jeunes disaient ça, ils disaient l'admiration, c'est en fait un manque de respect, qui serait en fait une posture. Il y a toujours ce mouvement de à la fois être sauvé par l'art et par la culture, et en même temps être écrasé par elle.
Pourquoi vous avez l'impression que le regard que vous portez sur ces textes-là doit se défaire ou se défier de l'admiration, Séverine Chavrier, pour ne pas être écrasée par ça?
Moi, je crois qu'on fait rien de très bien avec l'admiration, avec la contamination, l'imprégnation, oui, l'incarnation, mais l'admiration, c'est dangereux.
Assez lié, il y a un texte de Nietzsche que vous vouliez lire, Le Gai Savoir, 1882. Je dis lié parce que moi, je ne le savais pas, mais parce que vous voulez le lier à la pensée de Bernard. Pourquoi ?
Il y a un mouvement quand même germanique là, très limpide quand même, et puis. Pour moi, Nietzsche, c'était la découverte, évidemment, du philosophe-poète, enfin, la question de l'aphorisme, la question de la mort de Dieu. C'est une écriture magnifique, en fait. Et
à quel moment de votre parcours vous découvrez Le Gai Savoir, par exemple, ou Nietzsche ?
Dans ces eaux-là, autour de 20 ans. Et puis après, quand j'ai travaillé sur Le Déjeuner, j'ai relu pas mal.
Le Déjeuner de Wittgenstein.
Il reste finalement un moment, le personnage qui joue Wittgenstein monte comme ça dans cette haute bibliothèque et il tombe, il n'arrive pas à monter jusqu'en haut. Et en montant, il dit « Pourquoi j'écris de si bons livres ?» les titres de Ecce Homo, Pourquoi je suis un destin ? Pourquoi j'écris de si bons livres ? Pourquoi je suis si sage ? Voilà, il n'arrive pas à monter. Comme une sorte de mythomanie, il se prend pour Nietzsche. Voilà.
Il y a toujours un appareil philosophique autour de vos spectacles, autour des, par exemple, pour lire Bernard, vous armez de Nietzsche. Par exemple, je ne sais pas, pour lire Faulkner, pour qui a vu Absalon, à un moment donné, on rencontre Glissant. Il y a toujours un appareil intellectuel comme ça autour de vos lectures ?
Oui, j'essaye, j'en ai besoin, en fait, sinon...
Pourquoi ?
Pour comprendre ce que je veux faire et essayer de construire une dramaturgie qui me semble juste.
C'est votre manière de traverser les textes, d'être armé par un appareil théorique autour ?
En tout cas, c'est un temps qui est avant le spectacle et qui doit nourrir en tout cas le travail au plateau. Mais loin de moi l'envie d'illustrer cet appareil critique dans le travail. Mais par contre, de l'avoir et de m'en servir à des moments inattendus ou pour conforter des intuitions surtout. Par exemple, là sur Wittgenstein, on a quand même pas mal travaillé sur Wittgenstein aussi pour essayer de comprendre, parce que Bernard il joue comme ça avec ses figures, comme sa pièce dans Immanuel Kant. Il joue avec des éléments biographiques des philosophes, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un lien plus fort encore entre les jeux de langage de Wittgenstein et la pièce ? Et on a trouvé des endroits, il me semble.
Vous lisez un extrait du Gai Savoir ?
Thank you. ce qu'il faut apprendre des artistes. Quels moyens avons-nous de rendre pour nous les choses belles, attrayantes et désirables lorsqu'elles ne le sont pas ? Et je crois que par elles-mêmes, elles ne le sont jamais. Ici, les médecins peuvent nous apprendre quelque chose quand, par exemple, ils atténuent l'amertume ou mettent du vin et du sucre dans leur mélange. Mais plus encore, les artistes qui s'appliquent en somme continuellement à faire de pareilles inventions et de pareils tours de force. S'éloigner des choses jusqu'à ce que nous ne les voyons plus qu'en partie et qu'il nous faille y ajouter beaucoup par nous-mêmes pour être à même de les voir encore, ou bien contempler les choses d'un angle pour n'en plus voir qu'une coupe, ou bien encore les regarder à travers du verre colorié ou sous la lumière du couchant, ou bien enfin leur donner une surface et une peau qui n'a pas une transparence complète. Tout cela, il nous faut l'apprendre des artistes et pour le reste être plus sages qu'eux. Car chez eux, cette force subtile qui leur est propre sait généralement où cesse l'art et où commence la vie. Nous, cependant, nous voulons être les poètes de notre vie, et cela avant tout dans les plus petites choses quotidiennes.
Est-ce que vous voulez commenter cet extrait du Gai Savoir, Séverine Chavrier ?
Non, parce que j'ai l'impression qu'il faudrait revenir à Nietzsche contre Wagner. Il me semble que ça vient un peu de ce côté-là. Des polémiques qu'il voulait mener en disant que Bizet était le plus grand musicien de cette époque.
Le troisième choix, c'est Henri Michaux. Vous avez décidé de lire un texte d'Henri Michaux, en l'occurrence « La vie dans les plis ». Quand est-ce que vous rencontrez Henri Michaux et quelle place il tient dans votre bibliothèque ?
J'ai beaucoup aimé Michaux et j'ai beaucoup lu de poésie, pareil, autour de 18-19 ans.
En fait, beaucoup des textes que vous choisissez, en tout cas dans le début de cette sélection, Séverine Chavrier, c'est
bah oui, j'ai cru que c'était ça l'exercice.
Bah oui, mais c'est ça si vous décidez de le faire comme ça.
Donc c'est pour ça que ça m'a fait voyager intérieurement. Char, Michaux ont été vraiment importants dans cette cosmogonie et pour éviter justement le roman. Et pourquoi Michaux ? Je me suis demandé. Je pense que pareil, c'est cette sorte d'humour désespéré, quoi. Ce non-pathos. Et puis l'homme, comme ça, qui voyage. Ses expériences aussi avec la mescaline, comme ça. Une sorte de performance, en fait, incroyable. Et puis le lien avec le dessin, avec la lithographie. C'est un artiste où tout semble. Et tellement de force intérieure, tellement de un langage propre que tout rentre là-dedans. Ses dessins sont aussi sa poésie. Enfin, et je crois que ça c'est important quand on est jeune de regarder des artistes comme ça, comme si la nécessité était indéracinable. Et puis la discrétion, l'appel du voyage, la question du voyage aussi, d'aller toujours grande discrétion, grand humour.
La question de la nécessité indéracinable, c'est quelque chose qu'on sent chez vous, dans votre travail artistique, Séverine Chavrier. Est-ce que vous savez l'éclairer ? Est-ce que ça vous intéresse de savoir pourquoi ? Pourquoi est-ce que faire de l'art et faire du théâtre un peu plus spécifiquement vous est si nécessaire ? Et pourquoi vous le faites de cette manière-là ?
J'ai la chance de pouvoir le faire, déjà, avec toutes les conditions socio-culturelles qui m'ont permise de le faire. Et pour des raisons... thérapeutique et intellectuel et viscéral et voilà, et c'est vrai que quand on est jeune et qu'il faut armer cette nécessité on a besoin de d'artistes radicaux, en tout cas il y a une forme de radicalité chez Michaux, je trouve, et de d'intangible, enfin je
Mais ça permettait à cet âge-là, au moment où ça se fabriquait, au moment où vous avanciez, où vous réalisiez cette nécessité d'avoir une sorte de miroir ou de lecture compagnon ?
Oui, en tout cas de force. Comme Glenn Gould décrit par Bernard, cette espèce de puissance de travail, de radical aussi. On a besoin comme ça de la force de ces artistes-là.
On lit un extrait de Michaud.
La statue et moi. À mes moments perdus, j'apprends à marcher à une statue. Étant donné son immobilité exagérément prolongée, ce n'est pas facile. Ni pour elle, ni pour moi. Grande distance nous sépare, je m'en rends compte. Je ne suis pas assez sot pour ne pas m'en rendre compte. Mais on ne peut avoir toutes les bonnes cartes dans son jeu. Or donc, en avant. Ce qui importe, c'est que son premier pas soit bon. Tout pour elle est dans ce premier pas, je le sais. Je ne le sais que trop. De là mon angoisse. Je m'exerce en conséquence. Je m'exerce comme jamais je ne fis. Me plaçant près d'elle de façon strictement parallèle, le pied comme elle levé et raide comme un piquet enfoncé en terre. Hélas, ce n'est jamais exactement pareil, ou le pied, ou la cambrure, ou le port, ou le style. Il y a toujours quelque chose de manqué, et le départ tant attendu ne peut avoir lieu. C'est pourquoi j'en suis venue presque à ne plus pouvoir marcher moi-même, envahie d'une rigidité pourtant toute d'élan, et mon corps fasciné me fait peur et ne me conduit plus nulle part.
La fin de ce texte de Michaud qui termine par « Mon corps me fait peur et me conduit plus nulle part » me fait dire que il y a aussi quelque chose qui insiste dans la thématique de l'empêchement dans les textes que vous avez choisis, Séverine Chavrier. C'est toutes ces figures-là qui sont empêchées, qui de marcher, qui d'écrire, qui de composer, qui de tendre vers un idéal ou un absolu. C'est quelque chose qui est commun aux textes que vous partagez avec nous.
D'ailleurs, le beau texte de Blanchot sur Michaud qui s'appelle Henri Michaud, le refus de l'enfermement. Mais je trouve qu'il y a aussi beaucoup d'amour
et d'humour.
D'humour, évidemment, ouais. D'amour, d'empathie, et aussi beaucoup de liens avec la violence d'après-guerre, et des figures effectivement infirmes, etc. Mmh. C'est aussi très théâtral, en fait, la question du masque. Moi, j'utilise beaucoup, enfin, de tout ce qui est, en fait, prothèse des corps, etc., qui donne aussi une dimension de la figure sur scène, et qui ramène, à mon avis, un jeu théâtral augmenté.
Vous parlez là du lien non explicite, en tout cas dans les textes que vous avez choisis, de la violence après-guerre. On a assez peu parlé d'histoire ou de lecture proprement historique dans votre bibliothèque. Séverine Chavrier, ça a une place ? Ce sont des choses que vous pouvez lire ou pas du tout ?
Oui, j'ai beaucoup aimé la discipline quand j'ai eu la chance de la travailler. Néanmoins, ça demande beaucoup de connaissances. Mais j'aimerais beaucoup monter une pièce ou faire un travail où il y ait besoin un peu de
texte historique,
de connaissances historiques. Même si, par exemple, dans Absalon, c'est vraiment ce que j'ai voulu éviter, en tout cas la reconstitution historique. C'est pas pour une reconstitution, mais pour une pensée, en fait. Une pensée politique.
On va aller vers les deux autrices femmes que vous avez choisies, à commencer par Marguerite Duras.
Je suis dans des rapports que les hommes n'auront jamais avec un habitat, un lieu. Seule une femme peut y être à l'aise, peut y adhérer complètement, oui, sans s'y ennuyer. Je pense que je ne traverse jamais cette maison sans la regarder. Et je crois que ce regard-là, c'est un regard féminin. Un homme, il rentre le soir, il mange, il dort, il s'y chauffe, etc. Une femme, c'est autre chose. Il y a une sorte de regard extatique, de regard en soi, de la femme sur la maison, sur sa demeure, et sur les choses qui sont évidemment le contenant de sa vie, sa raison d'être, pratiquement, même pour la plupart d'entre elles, que l'homme ne peut pas partager. Il n'y a que les femmes qui habitent les lieux, pas les hommes. Quelquefois, quand j'y entre, j'ai le sentiment comme ça d'un foisonnement de femmes. On peut voir une maison comme un lieu où on se réfugie, on vient chercher un rassurement. Moi, je crois que c'est un périmètre clos sur autre chose que ça aussi. Oui, il se passe autre chose que... que tout ceci qui est courant, enfin, de la sécurité, le rassurement, la famille, la douceur du foyer, etc., etc. Dans une maison, il y a aussi l'horreur de la famille qui est inscrite. Le besoin de fuite.
La maison, c'est la maison de famille, c'est pour y mettre les enfants et les hommes, pour les retenir dans un endroit fait pour eux, pour y contenir leur égarement, les distraire de cette humeur d'aventure, de fuite qui est la leur depuis le commencement des âges. Quand on aborde ce sujet, le plus difficile, c'est d'atteindre le matériau lisse, sans aspérité, qui est la pensée de la femme autour de cette entreprise démente que représente une maison, celle de la recherche du point de ralliement commun aux enfants et aux hommes. Oui, c'est difficile de parler de la sexualité, vraiment. Avant d'être un plombier ou un écrivain ou un chauffeur de taxi ou un homme sans profession ou un journaliste, les hommes sont avant tout des hommes, des hétérosexuels ou des homosexuels. La différence, c'est qu'il y en a qui vous le rappellent dès qu'ils vous connaissent et d'autres un peu plus tard. Il faut beaucoup aimer les hommes, beaucoup, beaucoup. Beaucoup les aimer pour les aimer. Sans cela, ce n'est pas possible. On ne peut pas les supporter.
Deux extraits de La vie matérielle, c'est un livre composite de Marguerite Duras, publié en 1987, où il y a plusieurs textes par thématique, notamment autour de la maison que vous venez de lire, Séverine Chavrier, et puis cette citation, souvent tronquée d'ailleurs, on ne dit que de Marguerite Duras, il faut beaucoup aimer les hommes, alors qu'en fait, elle termine en disant, sinon c'est pas possible, on ne peut pas les supporter. Des maisons, il y en a. Dans votre théâtre, il y en a beaucoup. Elles sont construites, montées, démontées, mises à jour, avec une profondeur de champ. On a même parfois, je trouve, la chance, avec notre regard, de pouvoir presque être dedans, comme vous proposez presque de pouvoir être dans le texte avec votre théâtre. Qu'est-ce qui vous intéresse là dans ce qu'on vient d'entendre, la voix de Duras qui parle de la maison et de la pensée féminine de la maison et l'extrait de texte que vous avez choisi?
Avec Duras, c'est toujours aussi la question de l'amour. C'est quand même quelqu'un qui a parlé de la passion d'une façon redoutablement forte et traumatique, en fait. Donc moi, je l'ai beaucoup prise pour ça.
Vous la lisez à quel âge, même période? Enfin, je veux dire, ces fameux 20
là,
ans.
Ouais. Là, mais je pourrais la relire avec bonheur, le ravissement, cette première scène du ravissement de Lolfenstein qui est incroyable. Et puis, la maladie de la mort, enfin la question des larmes dans l'amour, quoi. J'ai l'impression que c'est la seule qui touche à cet endroit, qui n'est pas un espace forcément de sourire. Voilà. mais les larmes au sens du partage aussi, de penser que peut-être le plus grand don de soi, ça peut être ces larmes-là. Je dis beaucoup moins bien qu'elle. Et ça me touche beaucoup les temps aussi. Les temps et les espaces de l'amour qui peuvent être la nuit, qui peuvent être la journée, qui peuvent être un couloir, qui peuvent être... Et surtout qu'écrire n'est pas raconter une histoire, elle le dit d'ailleurs dans La vie matérielle, je l'ai relu là. Mais la question des maisons, ben j'aime les maisons pour fuir la famille, en fait, et toute cette, elle parle aussi, cet extrait qu'on avait aussi choisi sur la maladresse des femmes, enfin, cette injonction comme ça, et je me disais, cette chose très genrée, comment elle sonne aujourd'hui.
Leur maladresse, mais aussi leur savoir. Dans l'archive, elle dit, une femme qui traverse une maison, c'est un savoir esthétique sur cet espace-là. C'est un regard à nul autre pareil, et tout en éludant pas l'enfermement et la condition de subordination que ça a pu contenir ou que ça peut quand même contenir malgré l'émerveillement, le savoir d'agencement, la manière de produire de la maison. Moi, je trouve ça très, très beau ce qu'elle réussit à dire de comment une femme peut produire de la maison.
Oui, alors moi, je suis vraiment pas très forte pour ces
produire
choses-là.
De la maison.
Mais et je trouve scène. Aussi dans Duras des choses qu'elle dit très bien sur les placards qu'on ferme alors que ça dégouline à l'intérieur. Moi, j'aime bien travailler justement sur ces maladresses, sur cette incapacité à rentrer dans le costume de la femme sachante et sorcière du quotidien. Il y avait ça aussi dans Nous sommes repus mais pas repentis, où comme les domestiques n'étaient pas là, ils n'arrivaient pas du tout à faire ce repas, cette vaisselle cassée. J'aime beaucoup travailler là-dessus. Et en tout cas, elle parle de ce savoir secret aussi. Et cette chose inconciliable du désir hétéro-sexuel, hétéro-normé. Elle le dit très bien.
Inconciliable avec.
Inconciliable
dans
de fait.
Quoi. Ouais. Ouais, le ratage. Quoi.
Voilà. Et c'est assez beau. Elle dit que finalement, ce qui tient les hommes, c'est le pacte masculin. C'est là que ça se passe. Quoi. Je trouve ça finalement encore assez fort. Encore assez fort. Mais la question de... Comme nul autre pareil, elle réussit à parler de la question de l'amour et de la maladie de la mort, en fait.
Le dernier texte, c'est un texte contemporain, pour le coup. Vous avez choisi de lire un livre de Donna Haraway. On vous écoute.
Ecce homo, ne suis-je pas une femme et autre inappropriée de l'humain dans un paysage post-humaniste ? Je voudrais ici me focaliser sur les discours de la souffrance, de la dislocation. Je voudrais m'attarder auprès de corps désarticulés dans l'histoire comme des sujets possibles d'énonciation. La théorie féministe procède par figuration au moment où sa propre narration est en crise. Aujourd'hui, dans le monde entier, la narration historique est partout en crise, quels que soient les présupposés politiques. Le moment présent est à la fois crucial et périlleux. Or, la figuration permet de mettre en scène des possibles passés et futurs. La figuration devient le mode théorique à privilégier pour sortir d'une rhétorique de l'analyse critique systématique, répétitive et renfermée sur les narrations du désordre établi. L'humanité avec un grand H est une figure du modernisme et cette humanité-là possède un visage universel. Le visage donné à l'humanité a été celui de l'homme. Le visage d'une humanité féministe doit revêtir d'autres formes, d'autres gestuelles. Et je crois que nous devons nous doter d'une représentation féministe de l'humanité. Mais celle-ci ne peut être un homme ou une femme. Elle ne peut être cet humain que le grand récit moderne a mis en scène comme un universel. Les figures féministes ne peuvent avoir de nom. Elles ne peuvent pas être originelles. L'humanité féministe doit à la fois résister à la représentation, à la figuration trop littérale, et doit faire surgir de puissants tropes, de nouvelles figures, de discours, de nouvelles voies de l'histoire. À ce moment critique, lorsque toutes nos métaphores sont usées, nous avons besoin de voix inspirées. Cet essai raconte l'histoire d'une telle voix qui pourrait incarner la condition nécessaire et d'emblée auto-contradictoire d'une humanité non générique.
Vous terminez ce déballage de bibliothèque, Séverine Chavrier, par un extrait du manifeste Cyborg. C'est un texte de 1985 qui est traduit beaucoup plus tardivement en français, quasi manifeste sur la question des représentations dans l'extrait que vous avez choisi, Séverine Chavrier. Pourquoi est-ce que terminer par ça nous parle peut-être de la lectrice que vous êtes aujourd'hui ou de l'endroit de lecture dans lequel vous êtes aujourd'hui ?
Alors, je fais très attention à ce que je dis parce que je ne suis pas spécialiste. Malheureusement des questions féministes, mais c'est vrai que rencontrer Haraway a été un choc aussi par son inventivité, sa façon irrévérencieuse de travailler des concepts, cette vitesse quoi, cette et évidemment brillante aussi. Et c'est vrai qu'avec Absalon, évidemment,
Absalon, c'est le titre de votre spectacle inspiré du roman de William Faulkner.
Oui, pardon, je suis rentrée évidemment dans ces questions aussi. Voilà, qui sont passionnantes et je trouve ça très beau. Il faut trouver des nouvelles gestuelles et aussi une chose très, comment dire, très optimiste aussi, très ouverte sur des possibilités. Et c'est une chose, j'essaye d'agir dans le métier que j'ai la chance de faire, même dans le métier de direction d'institution. Et je trouve que les manières féminines de le faire doivent être nouvelles, doivent inventer de nouvelles façons de faire. Et donc, c'est une chose qui m'accompagne
et puis c'est assez
chaque jour aussi.
Parce qu'on a beaucoup parlé d'un corps empêché, amputé, puis d'un corps avec prothèse. Et là, on va vers le manifeste cyborg, autre silhouette, autre corps, autre possibilité. Donc, si on devait faire comme ça, attraper comme ça une sorte de parcours de lectrice, Cyril Chavrier, on pourrait aller de là vers là. Et avec Haraway, ça ouvre, quoi.
Et on essaie d'échapper, en tout cas, aux catégorisations et le plateau comme lieu où les cartes peuvent se rejouer. Où le masculin et le féminin peuvent s'entremêler, évidemment par le travestissement, mais par plein d'autres manières, où l'animal peut être présent avec l'homme, ou en tout cas les spectacles sont des aventures humaines et sensuelles et intellectuelles à cet endroit-là aussi.
Merci beaucoup d'avoir déballé votre bibliothèque pour le Book Club.
Merci à vous.
Trouvez tous les textes cités, les éditions et les traductrices. Vous pouvez vous rendre sur la page du Book Club franceculture.fr. Aujourd'hui au son, c'était Alexandre Dang, à la réalisation Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club.